text me the play-by-play.
Wait, what?
I don't watch the games.
Your goal shouldn't be to buy players. Your goal should be to buy wins.
These guys, to me, are jerks.
Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Magnus Cansy. Mon nom est Thibaut Châtel, je suis toujours évidemment en compagnie de Mathieu Brosseau. Salut Mathieu.
Salut à tous, salut Thibaut, ravi de vous retrouver.
Et nous sommes ensemble pour le cinquième épisode déjà de ce podcast Magnus Cansy consacré évidemment aux stats avancées dans le hockey sur glace. Cinquième émission qui est la suite directe de la quatrième où on avait commencé à rentrer dans le détail des statistiques, on avait commencé à expliquer la base, le Corsi, les chances de marquer, les buts anticipés, le PDO. Pour les équipes, pour les joueurs, en quoi c'est important, en quoi ça suffit souvent pour une analyse déjà à haute échelle, surtout quand on est dans le public ou les médias. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur ce qu'on appelle plutôt les micro-stats, les stats qui vont un peu plus loin. Donc on va parler de transition, de sortie de zone, entrée de zone, de rebond, de rush, de choses comme ça, de passes bloquées. Et on ouvrira aussi la parenthèse sur tout ce qui est le domaine de l'analytics, tout ce qui va vraiment très 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 loin dans l'analyse et les possibilités qu'offrent les stats. Rassurez-vous, on ne va pas vous bourrer le cerveau avec des choses comme ça, mais on veut uniquement vous un peu mettre l'eau à la bouche et vous dire, vous montrer ce qu'il est possible de penser, de modéliser et d'utiliser dans la pratique du hockey sur glace, tout ça à base des stats. Et pour finir, on aura quelques questions qu'on a recueillies auprès des internautes ces derniers jours. Donc allons-y. Et Mathieu, je te propose de commencer par la partie peut-être la plus intéressante, la plus importante, tout ce qui concerne la transition du palier.
La plus intéressante, surtout pour un peu transgresser sur déjà l'épisode suivant, la plus intéressante peut-être pour les coachs même, directement, notamment dans le scouting des adversaires à venir.
Ah, complètement. C'est à la fois quelque chose de très simple à comprendre, y compris notamment pour un coach qui l'a déjà utilisé dans le passé, donc il n'y a pas de concept à expliquer, il n'y a même pas de modélisation à effectuer. Et en même temps, c'est très très important, et une importance qui a été, je pense, d'autant plus augmentée par les recherches qui ont été faites par des statisticiens ces dernières années. Donc concrètement, quand on parle de transition du palier, on parle donc sortie de zone, entrée de zone, qui peuvent être faites en passe, en possession du palais, c'est-à-dire qu'on patine avec le palais, ou, pour utiliser un anglicisme, via un dump. Un dump ou un rejet, donc par la baie vitrée, par la bande, tout ce que vous voyez, envoyer le palais au fond de la zone pour aller le rechercher après à coup d'épaule. Donc ça, on le traque sortie de zone, entrée de zone, on traque quel est le joueur qui effectue le mouvement. Idéalement, on traque aussi l'emplacement exact, par exemple le point d'origine de la passe et son point d'arrivée, pour avoir un tracé après pour chaque joueur et pour les équipes, pour dessiner un petit peu des schémas, les habitudes, pour se rendre compte de ce que font les équipes. Ça, c'est très utile dans tout ce qui est scouting, espionnage, pour un grand mot, des équipes adverses. Et au fond, c'est pas plus compliqué que ça. Après, ce qu'on peut faire dans l'analyse, c'est comme on a fait pour le Corsi, les chances de marquer, les buts anticipés, c'est que comme les joueurs ne passent pas le même temps de jeu sur la glace les uns les autres, c'est qu'on ramène tout par tranche de 60 minutes, comme on l'avait expliqué l'autre fois. Donc on va avoir un nombre de sorties tentées, par exemple, par 60 minutes pour un joueur. Là-dedans, on va aller voir le nombre de sorties tentées en passe, le nombre de sorties tentées en dump, en possession. Ce qui se fait énormément, c'est de mettre ensemble les passes et la possession pour ce qui s'appelle les sorties effectuées en contrôle, ce qui signifie qu'on garde le contrôle du palais. Ça, c'est très important, et puis on va y venir tout de suite, par position avec les sorties effectuées donc en dump. Et ça, c'est pareil pour les entrées de zone. Les entrées de zone effectuées en contrôle versus les entrées de zone effectuées en dump. D'ailleurs, si vous nous suiviez cette saison dans nos analyses, vous avez pu constater qu'on utilisait beaucoup ces données-là pour l'analyse des joueurs, en regardant non pas le nombre d'entrées de zone ou de sorties de zone qu'effectuait un joueur, mais le nombre d'entrées de zone ou de sorties de zone qu'un joueur effectuait en contrôle, justement, parce que leur importance est beaucoup, beaucoup plus grande que les sorties et entrées de zone effectuées en dump. Et là, Mathieu, je me tourne vers toi. Est-ce que tu aurais sous la main quelques exemples des joueurs les plus efficaces dans ces domaines-là, par exemple la saison dernière en Magnus ?
Là, bah, la saison dernière en Magnus, on peut nommer pour les sorties de zone des joueurs vraiment efficaces, on a Vojtech Klos de Chamonix, par exemple, qui a été largement celui qui en faisait le plus par 60. Il faisait environ 8,5 sorties par possession par 60 et 21,5 sorties en passe. Et ça faisait de lui largement, si on additionnait les deux, celui qui faisait le plus de sorties en contrôle. Chez les attaquants, on peut citer Benjamin Lagarde, qui était deuxième pour les entrées de zone en contrôle par 60, avec 20,5. Et en sortie de zone, chez les attaquants, il était placé très haut aussi. Parmi les attaquants qui ont joué plus de 5 matchs, il était tout simplement premier dans les sorties de zone, avec 4,5 environ passes réussies par 60 minutes et 16,5 possessions par 60 minutes. Donc voilà deux exemples de joueurs. J'ai pris deux de Chamonix. J'ai pas fait exprès, mais c'est pas un hasard. C'était la volonté de Chamonix de jouer comme ça. Et c'est certainement pour ça qu'ils ont beaucoup dépassé leur attente. Et rapidement, un dernier exemple en NHL, parce que là, ça va parler à tout le monde. Le meilleur joueur de hockey au monde à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on s'entendra tous pour dire que c'est Connor McDavid. Et ben, en NHL, il est le meilleur pour ce qui est de faire des entrées de zone en possession par 60. Dans le pourcentage de ses entrées de zone qui sont par possession, et il est également le meilleur dans le pourcentage de ses sorties de zone par 60 parmi les attaquants. Donc voilà, quand on vous dit que c'est important, là vous voyez que celui qui est considéré comme le meilleur joueur du monde est le meilleur dans ses statistiques.
Et même pour la France, dans les joueurs qui sont très très hauts en entrée de zone notamment, on retrouve des Damien Fleury, des Alex Alliardi. Des joueurs qui ont une capacité technique et de patinage pour se frayer un chemin comme ça dans la zone adverse, c'est pas étonnant qu'ils arrivent ensuite à créer du danger.
Et chez les défenseurs, on peut citer Kevin Ekfey notamment, que tout le monde reconnaît comme un défenseur très fort avec la rondelle qui permet de créer du danger. Et il n'est pas étonnant de le retrouver très haut dans ces statistiques-là, notamment en sortie de zone.
Donc quand on vous dit que toutes les sorties et les entrées de zone ne se valent pas, c'est que évidemment des statisticiens se sont penchés sur la question ces dernières années, puisque comme toutes les autres phases du hockey sur glace, eh bien on a cherché tout simplement quelles transitions étaient les plus efficaces, en gros quelles transitions vous donnaient le plus de chances d'aller marquer un but, puisque là on est dans une phase offensive, on part avec la possession du palais. Théoriquement, on peut se dire que effectivement, ça paraît logique de considérer que quand on garde la possession du palais, donc quand on se fait des passes entre coéquipiers ou quand on patine avec, c'est plus efficace que de balancer le palais vers l'avant. Quand on balance le palais vers l'avant, quand on fait un dump, on part d'une situation où on a le palais à 100%, il est dans notre palette, à, dans le meilleur des cas, on se crée un duel à 1 contre 1 à 50-50. Et évidemment, dans le pire des cas, ce qui arrive souvent, c'est qu'on rend le palais à l'adversaire. Et donc là, vous allez me dire, oui, mais des fois, on envoie la rondelle en fond, peut-être qu'effectivement c'est un défenseur qui la récupère, mais là on lui met la pression, on crée un revirement, on récupère la rondelle et on lance l'attaque. Nous évidemment on a des chiffres là-dessus, et on a des chiffres qui disent que si on prend l'ensemble d'une séquence offensive, c'est-à-dire à partir du moment où on passe la ligne bleue, que ce soit par un dump ou en contrôle du palais, jusqu'à ce que le palais ressorte de la zone offensive, qu'est-ce qui s'est passé? On a les chiffres, on est allé mesurer donc tout ce qui se passe à l'intérieur de cette séquence. Quand vous entrez en zone offensive en dumpant la rondelle, à l'intérieur de la séquence, et historiquement, vous avez 21% de chance d'obtenir un tir, de pouvoir tenter un tir, 21%. Si vous entrez en zone offensive en contrôle du palais, vous avez 50% de chance d'obtenir un tir. 50% versus 21, c'est plus du double. Ça, c'est un fait qu'on a déjà évoqué, je pense, dans un épisode précédent. Mais quand vous avez un fait comme ça qui montre que un geste est deux fois plus efficace qu'un autre geste, non seulement en termes de stratégie, si vous êtes un coach, normalement, vous devriez y repenser à deux fois avant de dire à vos joueurs de dumper la rondelle au fond de la zone. Et si vous êtes un joueur, vous devez vous dire que vous avez beaucoup plus de chances de créer quelque chose si vous gardez la possession de la rondelle. Après, on sait que les joueurs exécutent les stratégies de l'entraîneur, mais c'est le genre de données qui, je pense, est maintenant relativement connu dans le hockey moderne. Et quand on voit en NHL, et puis même, ça arrive quand même beaucoup en Europe et en France, des équipes qui gardent le plus possible la rondelle dans leur palette parce qu'elles savent que c'est le meilleur moyen de créer de l'offensive. Donc ça vous donne une idée de pourquoi c'est important de mesurer ces stats-là, parce que ça mesure à quel point notre équipe a été efficace dans ces transitions, ça mesure à quel point on a su contrôler l'équipe adverse. Si on s'était fixé des objectifs, on veut les limiter à tant de pourcentage de sortie d'entrée de zone en contrôle parce qu'on a voulu fermer la zone neutre. Donc normalement, on devrait voir les résultats dans leurs entrées de zone. Ils ont dû en rater plus souvent, etc. Ça peut vous donner des indications, évidemment, sur les joueurs. On a donné des exemples tout à l'heure des joueurs qui performent très bien. Il y en a d'autres qui performent beaucoup moins bien. Il se peut que des joueurs appliquent les consignes de l'entraîneur. On avait une équipe comme Lyon l'an dernier qui utilisait énormément le dump. Ça, c'était une stratégie d'équipe. Malgré ça, on avait des joueurs comme Ryan Verbeek qui ressortaient assez haut, que lorsqu'ils tentaient quelque chose en contrôle, ils réussissaient parce qu'ils ont les capacités techniques, ils savent le faire. Donc si on prend un joueur sur plusieurs saisons, on va voir ressortir des joueurs qui ont vraiment les capacités de créer de l'offensive de cette manière-là, en gardant la possession de la rondelle, versus des joueurs qui simplement n'ont pas, cette réflexion et ou les capacités techniques. Donc voilà un petit peu pour les transitions. Et puis, comme je l'ai dit, ça peut aller très loin dans l'analyse, et puis on en reparlera dans l'épisode prochain qui sera consacré à la façon dont les équipes utilisent les statistiques. Ça peut aller très loin dans la façon dont on décortique un match pour épier l'adversaire et savoir comment contrer son plan de match. Si on passe à une autre stat qui est également mesurée à Magnus Corsi, ce sont les passes dangereuses en zone offensive. Là, on a plusieurs mots pour ça. Ça peut être les passes vers le slot, les passes vers la zone des chances de marquer. C'est en gros toutes les passes qui atterrissent dans la zone des chances de marquer qu'on a déjà décrite. Si vous partez des poteaux jusqu'au point d'engagement, vous remontez en haut des cercles et vous fermez. L'espèce de home plate, comme ils disent en anglais. Toutes les passes qui sont dirigées vers cette zone. Pourquoi c'est important ? Parce que si on reprend le même concept que tout à l'heure pour les transitions, historiquement 82% des passes qui sont tentées comme ça sont suivies immédiatement par un tir. Vous vous rendez compte, 82%, c'est absolument énorme. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les tirs seront forcément beaucoup plus dangereux à l'arrivée, mais vous créez des tirs supplémentaires. Je pense qu'on a déjà suffisamment expliqué dans ces émissions que ça a une grande importance de se créer un maximum de tirs, donc un maximum de chances, donc un maximum de buts à l'arrivée. À force de le faire, vous vous créez des occasions. On a vu des équipes très fortes pour faire ce genre de choses l'an dernier, comme Rouen, qui avait un jeu axé sur les passes, même passes en priorité, on va dire, parfois, passes plutôt que le tir, parce qu'il vaut mieux tenter une passe vers la zone des chances de marquer que de prendre un tir à faible valeur du long des bandes quand on rentre dans la zone offensive, par exemple. On a vu une équipe comme Amiens, sur sa supériorité numérique, qui a très bien marché l'an dernier, tenter beaucoup ce genre de passe également. Il y a des équipes en NHL comme Tampa, comme Vegas, qui tentent énormément ce genre de passe, qui ont un jeu de mouvement, un jeu très axé sur le mouvement, parce qu'elles savent que ça crée des chances. Washington l'a beaucoup fait aussi ces dernières saisons.
L'exemple inverse, c'est le power play de Nashville, qui cherche le tir à la pointe avec un gros gars devant la cage. Et là, en l'occurrence, ça marche beaucoup moins bien.
Exactement. Dans les stats qu'on peut mesurer aussi, qu'on mesurera d'ailleurs la saison prochaine à Magnus Corsi, il y a évidemment les rebonds, ça parle à tout le monde. Ce qu'on qualifie comme un rebond chez nous, puis souvent dans le reste du milieu du hockey statistique, c'est un tir qui intervient moins de 2 secondes après un autre tir. Donc c'est pas l'acte que le gardien lâche un rebond en soi, c'est un tir-rebond, c'est un tir qui vient juste après un autre tir. Donc ça, quand on regarde la valeur en but anticipé d'un tir-rebond, elle est plus grande qu'un tir normal. Et vous imaginez facilement pourquoi. Vous vous mettez dans la situation de match. Il y a un tir qui arrive, le gardien se met en position, il l'arrête. Un attaquant peut prendre un deuxième tir direct, le gardien est certainement hors de position, il n'est plus sur ses appuis, etc., etc. Donc c'est normal que ça vaille plus. Ça, c'est le genre d'info qui est important de mesurer. C'est le genre d'info qui est aussi important d'intégrer dans votre modèle de but anticipé. Puisque, je viens de le dire, un tir qui intervient sur un rebond va être plus dangereux que le même tir au même emplacement s'il n'est pas un rebond. Ensuite, dans les choses qu'on peut mesurer, il y a le fait de différencier les attaques qui sont ce qu'on appelle dans le rush ou placées. Ce qu'on appelle dans le rush, il y a quelques différences de définition, mais pour nous, par exemple, c'est un tir qui intervient moins de 3 secondes après qu'on ait franchi la ligne bleue.
Et ça, pour voir l'importance de cette statistique, faites un tour sur le Twitter de The Point, qui est le compte rattaché à Sportlogic qui fournit les stats à de nombreuses équipes NHL et qui donne quelques stats au cours des matchs importants de l'année, notamment des playoffs en NHL. Et regardez le nombre de matchs sur lesquels l'équipe qui est en tête sur les rush scoring chance, donc les chances de marquer sur les rushs, gagne finalement le match. J'avais fait l'exercice sur le début des playoffs et on était à plus de 66% de matchs remportés par l'équipe qui était en tête au rush scoring chance. Et ça s'explique par le fait que quand on est en rush, c'est là qu'on peut prendre l'équipe adverse à défaut dans son placement parce que tout va vite et elle n'a pas le temps forcément de bien se placer en défense.
Et ça reflète aussi le style de jeu qui est en train d'évoluer dans la NHL où pour contrer justement le hockey de quantité, on est passé au hockey de qualité. Pour contrer le hockey de qualité des chances de marquer, on a fermé davantage la zone neutre. On est passé à un hockey un petit peu plus défensif. Mais du coup, quand on récupère le palais, on peut lancer des contres très très rapides pour prendre de vitesse les défenses, ce qui donne beaucoup plus de rush. Ce qu'a fait une équipe comme Vegas, notamment, il y a 2 ans, pour arriver jusqu'en finale, ils avaient une vitesse d'exécution assez phénoménale qui permettait de créer énormément d'offensives. Jusqu'à ce qu'ils tombent sur un os à Washington qui les a pour le coup fermés complètement dans la zone. Mais c'est quelque chose que l'on voit arriver en Ligue Magnus, qu'on a vu l'an dernier avec des équipes comme Chamonix ou Nice qui arrivaient à se créer beaucoup d'offensives sur ce qu'on pouvait appeler grossièrement des contre-attaques, mais des styles d'attaque comme ça en rush avec pourquoi pas un jeu de passe à l'arrivée qui permettait de faire un décalage sur un 2 contre 1 pour prendre le gardien à revers. Dans tout ce qu'on peut mesurer également, qu'on ne va pas mesurer forcément à Magnus Corsi parce que malheureusement notre temps est limité, mais il faut bien imaginer que ce sont des choses qui sont mesurées notamment par les fournisseurs privés comme Sportlogic ou Iceberg, ou même parfois par les équipes en interne s'ils veulent mettre l'emphase là-dessus. On a évidemment tout ce qui s'apparente à des duels, tous les 1 contre 1. Ça, on peut les mesurer, il y a beaucoup de coachs qui attachent de l'importance à ça. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de les mesurer par exemple, et je peux vous dire que rien qu'à 5 contre 5 dans un match, il y a environ 200 duels sur en moyenne 40 minutes de jeu. C'est énorme.
Et en plus, c'est très peu corrélé à la victoire finale ou non d'une équipe. On retrouve souvent des chiffres autour de 50% de duels remportés par l'équipe. Ça varie globalement entre 55 et 45%, des fois un peu plus, mais globalement sur un match, les duels sont assez even entre les deux équipes et c'est pas forcément l'équipe qui gagne le plus de duels qui va gagner le match au final.
C'est ça, moi c'est la critique qu'on aurait et c'est la critique qu'on c'est le message qu'on fait passer aussi quand il faut.
On demande souvent plus au coach d'éviter les duels, on conseille souvent plus au coach d'éviter les duels que de les remporter parce que éviter les duels ça veut dire jouer plus vite souvent et créer plus de danger et ça bah forcément si on joue pas de duel on a moins de chances de les perdre en plus.
C'est ça. Mais c'est quelque chose, une notion qui est assez historique de remporter ces duels. Sauf que comme Mathieu l'a dit, il n'y a aucun lien entre le fait de remporter plus de duels que l'adversaire et de gagner un match. Vraiment aucun. Sur environ 200 duels dans un match à 5 contre 5, ça va vraiment tourner autour de 50-50 comme Mathieu l'a dit. Tout ça parce qu'on a en mémoire, chacun d'entre nous, je parle des coachs et du public, on a en mémoire... ce duel à cet instant précis qui a été perdu et qui a causé un but. Mais dans le fond, c'est un duel, c'est une situation de jeu. Ça ne veut pas dire que les duels en général ont une importance capitale. Évidemment qu'il vaut mieux garder, qu'il vaut toujours mieux gagner son 1 contre 1, mais attacher au duel dans leur ensemble une importance significative, notre vision, c'est de dire non, il y a mieux à faire.
Et d'ailleurs, les grands joueurs actuels, que ce soit en NHL ou en France, comme Connor McDavid, Johnny Gaudreau, ou en France, Alex Alehardi, jouent finalement très peu de duels. Hein. Ils prennent l'adversaire de vitesse, mais ils vont très peu jouer de duel à 1 contre 1.
Oui, ils les évitent, parce que quand on parlait de l'importance des rushs dans le hockey moderne, vous créez un duel, c'est rarement à grande vitesse. Quand vous créez un duel, le jeu s'arrête. Donc, c'est, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qu'on essaie même souvent d'éviter. Des choses qui sont assez logiques et même parfois historiques, on peut évidemment mesurer tout ce qui est récupération de palais, et puis en opposition les revirements. Donc ça, ça peut se faire de plusieurs manières, ça peut se faire en globalité, mais dans le détail, par exemple, pour un défenseur, on peut noter toutes les passes coupées, ça c'est très important. Tous les palais qui ont été, à chaque fois qu'un défenseur a enlevé le palais à un adversaire, même si le défenseur ne l'a pas forcément récupéré lui-même, mais là en fait le nombre de fois où il a cassé le jeu, ça c'est des choses très importantes. Pour les attaquants, le nombre de fois qu'ils sont allés récupérer le palais en zone offensive, hein, tous les revirements causés, ça c'est des choses qui sont importantes. Puisqu'on est là-dedans, on peut évidemment mesurer la valeur d'un forecheck, d'un échec avant, excusez l'anglicisme. Comment on fait pour faire ça? Comment on fait pour mesurer le forecheck? Il y a plusieurs études qui ont été faites. Le plus facilement, c'est en fait de regarder la capacité de l'adversaire à sortir de sa zone, donc le pourcentage de sortie de zone qu'il réussit, le pourcentage de sortie de zone qu'il effectue en contrôle. Et puis logiquement, plus notre forecheck est efficace, moins l'adversaire réussira à sortir facilement de sa zone. Ça, on peut le faire pour une équipe. Si on note à chaque fois les joueurs qui sont sur la glace, on peut noter que bah, quand le joueur X est sur la glace, l'équipe adverse sort moins facilement de sa zone. C'est l'effet de son forecheck personnel. Et puis ça, c'est quelque chose, encore une fois, dans lequel on reviendra dans l'émission suivante sur les coachs, qui est très importante dans l'analyse des équipes adverses. Une dernière chose qu'on pourrait citer, c'est évidemment le temps de possession. Là, je parle en minutes et en secondes. Par zone, défensive, neutre, mais surtout offensive. C'est quelque chose qui est très simple à faire. C'est quelque chose qui est déjà aujourd'hui utilisé, notamment dans les médias, parce que c'est quelque chose de très facilement compréhensible par le public. On va pas se le cacher. Est-ce que ça veut dire beaucoup de choses? Ma vision personnelle, peut-être que Mathieu, c'est différent pour toi, mais c'est que c'est pas essentiel. Parce que on peut passer beaucoup de temps en position du palais dans la zone offensive, ça ne veut pas dire qu'on fait grand-chose avec le palais. Il y avait un exemple très concret de ça, c'était la Caroline ces dernières années, qui passait énormément de temps en zone offensive, mais qui était complètement arrêtée, sans vitesse, stationnée le long des bandes, et qui finissait par prendre beaucoup de tirs, mais des tirs peu dangereux. Quelque chose qu'ils ont changé cette année, et on a vu le succès... arrivé pour cette équipe, et de meilleures chances de marquer, un plus grand pourcentage de réussite au tir, etc., etc. Donc oui, ça existe, oui, c'est déjà cité à plusieurs endroits. Est-ce que c'est aussi important que le reste? Selon moi, peut-être pas.
Ça peut quand même être utile pour avoir une avis générale sur le match, savoir laquelle équipe a passé le plus de temps dans la zone offensive. Bah, souvent, ça rejoint un peu le Corsi, hein, globalement.
Oui, qui est censé être un proxy du, de toute façon. Du temps de possession.
Oui, mais par contre, là où je le trouve intéressant, c'est plus pour les joueurs. Les joueurs qui sont capables de garder le palais en zone offensive, c'est dur à faire de garder le palais en zone offensive, il y a peu d'espace et on est constamment harcelé. Mm. Et voir individuellement quel joueur est capable de garder le palais en zone offensive, et donc on imagine de trouver une solution au final. Plus on garde le palais, plus il y a de chances qu'il y ait une solution qui s'ouvre à un moment ou un autre. Ça peut être intéressant, je regarde là en 2017-2018, les trois joueurs en NHL qui avait le plus de offensive zone puck possession time, c'est Matthew Barzal, Patrick Kane et Connor McDavid, qui avaient tous les trois un peu plus d'une minute par match le palais en zone offensive. Et je pense que c'est quand même pas un hasard que ces trois joueurs là soient cités et qu'ils finissent par trouver beaucoup de décalage après, plus tard dans l'action.
Est-ce que tu avais d'autres stats comme ça, Mathieu? Moi, il y a plus rien qui me venait en tête là sur des choses assez relativement assez simples encore.
Non, pour rebondir ce que tu disais sur les duels, on n'a pas parlé des face-off qui sont comptés depuis belle lurette, mais qui sont juste, selon nous, un duel comme un autre. Et comme tu disais pour les duels, on a tous en tête un face-off qui change le cours d'un match. On peut prendre l'exemple de Saint-Louis qui a gagné une série de play-offs sur un duel, sur un face-off gagné. Mais pour un face-off gagné, combien n'ont eu finalement aucune importance sur la rencontre ?
Oui, t'as très bon point. Je pense que j'avais cette discussion il n'y a pas longtemps avec un joueur notamment. Et je me rappelais, mais tu sais, les face-off, je pense que historiquement, NHL, sur des dizaines de saisons, des centaines de milliers de face-off, il semble que le chiffre, c'est qu'il y a un but. 2% des face-off amènent un but dans les secondes qui suivent. 2%. C'est mini, mais quand on pense au fameux but de Saint-Louis, c'est lors du match 7 contre Dallas.
Il me semble, oui, que c'est ça.
Ou Colorado, je ne sais plus. Effectivement, il gagne le face-off, mais après, il y a un magnifique bloc qui ouvre la voie au centre de Saint-Louis, alors que le défenseur se fait bloquer par, je pense que c'est déjà Pat Maroon.
Ouais, c'est Maroon qui bloque et c'est...
Après, il y a un tir, le gardien lâche un rebond, et Maroon va chercher le rebond. C'est-à-dire qu'entre le face-off et le but, il s'est passé tout un tas de choses. Donc oui, le face-off avait été gagné, mais en gros, le duel a été gagné, mais le plus important, c'est ce qui arrive après.
En fait, les face-off et les duels, ils peuvent être utiles que lorsqu'on est archi-dominé ou archi-dominant. Forcément, si une équipe elle gagne que 20% des face-off, bah là ça peut être un problème parce que comment c'est toutes les actions par courir derrière la rondelle. Si on a parlé de l'importance d'avoir la rondelle en sortie de zone, entrée de zone, c'est aussi le cas d'avoir la rondelle après les face-off, ça aide forcément à poser son jeu. Et dans ce cas-là précis, ça peut être utile, mais là aussi encore, il faudrait voir. Mais sur le nombre de matchs où l'écart dépasse les 60-40, il ne doit pas y en avoir bien beaucoup.
Non, et puis si on regarde les meilleurs preneurs de face-off. Dans la Ligue nationale, là où il y en a le plus, hein, c'est, on est un très très bon genre de face-off quand on est déjà à 55%. Donc c'est pas, on parle pas d'un mec qui gagne les trois quarts de ses face-offs. J'en profite pour sauter directement sur une question qu'on avait, une question de Pierre qui parlait des départs en zone. On va l'ajouter à la liste des stats qui sont traquées et utiles comme ça. C'est qu'on peut évidemment mesurer le nombre de fois qu'un joueur commence sa présence en zone défensive, neutre ou offensive. Et puis, par ratio, est-ce qu'un joueur commence, mettons, 50% de ses présences en zone défensive, 30% en zone neutre, puis 20% en zone offensive. Là, on peut voir que l'entraîneur assigne à ce joueur-là davantage de missions défensives, le fait commencer ses présences en zone défensive, surtout. Dans cet exemple-là, ça va souvent arriver, par exemple, à des centres de quatrième trio, qui sont spécialisés dans des rôles défensifs. Et puis à l'inverse, on a des joueurs comme Patrick Kane, qui démarrent énormément de présence en zone offensive, parce que d'une part, ça paraît logique de maximiser le talent de ce joueur, d'un joueur comme Patrick Kane, en le mettant directement dans une disposition, dans un contexte où il va pouvoir tirer, passer, enfin bref, faire son affaire. Et peut-être aussi parce que Patrick Kane, t'as pas forcément envie de l'avoir en zone défensive en train de défendre. Chacun son talent, chacun ses qualités, mais c'est toute une réflexion. Le bémol qu'on peut mettre à cette stat, c'est que au final, elle est peut-être un petit peu surévaluée parce que sur l'ensemble d'un match, puis même d'une saison, il y a au final plus de shifts de présence qui commencent on the fly, je cherchais le mot français, merci, au vol. Changement volant que des changements sur départ arrêté au face-off. Donc si vous faites 30 présences dans un match, il y a peut-être 20 que vous avez commencé en changement volant, puis 10 que vous avez commencé sur un face-off à 55. C'est peut-être la limite de celle-là.
Oui, et globalement, on peut aussi mettre d'autres stats de contexte dont on n'a pas parlé, mais regardez le corsi de ses partenaires et le corsi de ses adversaires, ou le temps de jeu de ses partenaires et le temps de jeu de ses adversaires, ça donne généralement une idée de est-ce que tu joues avec les meilleurs joueurs de ton équipe, est-ce que tu joues contre les meilleurs joueurs de l'équipe adverse, ou pas, ou l'inverse. Et là, si on prend l'exemple, par exemple, du New Jersey, il y a 2 ans, c'était Travis Sajak qui passait, qui avait largement le plus gros Corsi adverse, donc c'est-à-dire qui jouait contre les meilleurs joueurs adverses au Corsi, qui sont généralement les meilleurs joueurs adverses tout court. Et à l'inverse, la deuxième ligne de l'époque, où il devait y avoir Marcus Johansson dessus, et puis je ne sais plus trop qui d'autre, Jesper Bratt qui devait être par là aussi, eux jouaient un peu plus contre les adversaires un peu plus faibles pour profiter du talent offensif de ces joueurs.
Ouais, et ces données-là, les départs en zone, ou la qualité, ce qu'on appelle la qualité des coéquipiers ou la qualité des adversaires, va être souvent utilisé pour ajuster les stats de Corsi, chance de marquer, but anticipé. C'est-à-dire que vous avez votre Corsi, mettons, à 50%, si vous êtes un joueur. Mais qu'on sait que vous avez joué avec les pires joueurs de votre équipe, on va réaliser un ajustement pour dire que oui, malgré le fait que tu jouais avec les pires joueurs de ton équipe, tu étais quand même à 50%. Donc il y a des ajustements qui sont faits comme ça par des calculs historiques. Un petit débat là-dessus entre qualité de la compétition et qualité des coéquipiers, c'est que la qualité de la compétition tend, selon les statisticiens, à être surévaluée. C'est-à-dire qu'on parle souvent du fait de jouer contre les meilleurs trios adverses, mais sur un match, oui, mais sur une saison, déjà on joue pas toujours contre le même trio lors d'un match. On parlait de fait d'affronter Sidney Crosby la dernière fois. Mais sur une saison, si vous regardez donc la qualité de compétition, c'est comme ça que s'appellent ces stats, de tous les joueurs de la NHL, tous les joueurs de la NHL ont une qualité de compétition qui se situe en gros entre 49 et 51%. C'est-à-dire que si vous mélangez tous les adversaires que vous affrontez au cours d'une saison NHL et que vous faites la moyenne du Corsi de ces adversaires-là, vous êtes entre 49 et 51%. C'est extrêmement serré. Parce que si vous jouez contre la première ligne, effectivement, de Pittsburgh, le mardi soir, vous jouez contre une vraie grosse première ligne qui est forte en possession du palais, etc. Mais si le jeudi, vous jouez contre la première ligne d'Ottawa, la première ligne d'Ottawa, elle vaut pas grand-chose. Donc oui, vous jouez contre les meilleurs trios adverses, mais sur l'ensemble d'une saison, vous affrontez un peu de tout. Par contre, la qualité des coéquipiers, ça c'est quelque chose qui a un spectre beaucoup beaucoup plus large, parce que au sein d'une équipe et même au sein de la ligue, la variété de talents des joueurs est un peu extrême parfois. Donc au cours d'une saison, vous pouvez jouer, vous retrouvez à l'aile de Sidney Crosby ou sur le quatrième trio des Pingouins, et la qualité de vos coéquipiers n'est évidemment pas la même. Donc si vous jouez toute la saison sur l'aile de Sidney Crosby, vous avez bénéficié de Sidney Crosby, donc c'est normal qu'on ajuste vos stats à la baisse dans ce cas-là, parce que votre qualité des coéquipiers était supérieure à la moyenne.
Il y en a qui ont fait leur carrière un peu là-dessus. On peut saluer Chris Kunitz, par exemple.
Il savait marquer des buts quand même, mais oui, il a bien surfé sur, même pas juste sur Crosby, à Anaheim aussi. Il s'est trouvé au bon endroit au bon moment, et des médailles olympiques et des coupes Stanley à son palmarès comme ça. Je pense que ça fait le tour pour les stats, les micro-stats qu'on pouvait citer. Il y en a évidemment d'autres, mais on ne veut pas vous perdre et on veut vraiment aller à l'essentiel. Dans la deuxième partie de cette émission, on voulait faire une ouverture sur tout ce qu'on a qualifié par le passé d'analytics. En gros, tout ce qui prend les données brutes, simples, factuelles, et s'en sert pour les mélanger, créer des modèles mathématiques. Alors, on va donner des exemples, évidemment. On a déjà évoqué le WAR, W-A-R, qui est le Win Above Replacement, qui essaie de mesurer l'ensemble de l'activité d'un joueur défensif, offensif, pour lui donner le résumé à une seule stat, une seule note.
Globalement, pour un peu imaginer cela, ça donnerait le général d'un joueur sur NHL ou sur FIFA, en gros, ça serait un peu ça.
Ouais, exactement. Donc ça, on a plusieurs modèles, parce que suivant le statisticien qui l'a créé, il a étudié ses données, puis il a fait sa propre recette. Ça change jamais du tout au tout, je vous rassure, mais ça donne une idée. Si on veut se donner un premier aperçu d'un joueur, on va voir quel est son WAR. quel est son WAR par match, par 60, etc., etc. On peut diviser en WAR offensif, défensif. Et puis il y a d'autres modèles similaires. On avait parlé du GAR, qui est le Goal Above Replacement, qui mesure là en but que l'un joueur apporte à son équipe. Ça peut être des buts ajoutés offensifs ou des buts sauvés en défensif. C'est également des stats qu'on peut faire pour les gardiens, pour les inclure dans le modèle. Si on fait l'ensemble, si on ajoute tous les joueurs d'une équipe, on a du coup le WAR ou le GAR pour l'équipe, ce qui permet de faire, pourquoi pas, des modèles de projection sur une saison à venir.
Un peu identique au GAR, on peut citer le GameScore, qui est le même principe, mais qui s'appelle différemment, créé par Dom Luczynski de Via Athletic, et dont on se sert sur MagnusCorsi d'ailleurs.
Dont on se sert, qui est beaucoup plus simple, parce que en gros, ça prend ton différentiel de Corsi à 5 contre 5, les points marqués, but, assist primaire, assist secondaire, qui prend l'effet soft perdu gagné, qui prend les tirs contrés, qui prend les minutes de pénalité accordées ou concédées, qui prend les buts pour ou contre lorsqu'on est sur la glace. Chacune de ces stats avec un poids un peu différemment qui a été étudié, mais à la fin ça vous donne une note, tout pareil. Mais il n'y a pas eu de modèle mathématique très très compliqué derrière. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser.
C'est entre guillemets un WAR simplifié.
Un WAR simplifié, mais qui est déjà très utile. Dans les stats, les modèles d'analyse qu'on peut citer, on avait parlé du Betweeness, qui sert à mesurer quel a été l'impact d'un joueur dans la création offensive de son équipe. C'est-à-dire que si, on va reprendre encore une nouvelle fois cet exemple, si vous avez mis 80 points dans la saison mais vous avez passé la saison sur l'aile de Sidney Crosby, il y a de grandes chances que vous ayez mis 80 points parce que vous jouiez avec Sidney Crosby. Par contre, si la saison d'après vous remettez 80 points sur la première ligne d'Ottawa, peut-être qu'en fait vous êtes un vecteur offensif vous-même et que vous créez quelque chose, vous n'êtes pas juste un passager sur l'aile de Sidney Crosby, en gros. Donc le Betweeness, qui est une opération mathématique, on ne va pas rentrer dans les détails, sert à prendre sur une saison ou sur plusieurs saisons d'aller voir à quel point un joueur est un moteur ou à l'extrême inverse est un passager dans son équipe. En gros, ça on peut le faire à 55, on peut le faire évidemment par exemple très intéressant sur le powerplay. Si on prend dans des choses un petit peu plus simples et qu'on a fait à MagnusCorsi, c'est tout simplement par exemple un modèle de projection pour les points marqués dont on s'est servi cet été. Pour faire ce modèle, on est allé voir sur les 20 dernières années de Ligue Magnus, déjà pour les joueurs qui arrivent de l'étranger, quelle était la conversion moyenne en passant d'une Ligue X à la Magnus. Donc, en points par match, si vous mettiez un point par match en première ligue tchèque, en moyenne, vous arrivez peut-être à 1,8 par match en Ligue Magnus, parce que la Ligue Magnus est plus faible, ça paraît logique. À partir de ça, on a étudié mathématiquement quel était le meilleur moyen de prédire la performance future d'un joueur, et puis on est arrivé, là on est encore dans les calculs, mais c'est peut-être en prenant les deux ou trois dernières saisons, pondéré différemment, la saison précédente est un petit peu plus importante que les saisons précédentes, vous prenez les performances de la saison précédente, de la saison d'avant, peut-être de la saison encore avant, et vous arrivez à faire une projection, en gros. On l'a dit, ça c'était un outil, on s'est amusé avec, il y aura des projections qui seront complètement, complètement fausses à la fin de l'année prochaine, mais l'idée c'est que la majorité des projections seront à peu près dans le mille, et ça nous donnait déjà une idée de savoir la force des équipes, ce qui nous a servi de faire un classement projeté de la saison prochaine sur la base de ça,
sachant que pour l'instant il n'inclut ni les gardiens ni la qualité défensive des équipes.
Oui, mais les gardiens ça va se faire, peut-être que quand ce podcast sortira les gardiens auront été inclus, mais de la même manière un gardien, quelle est l'évolution d'un gardien qui arrive de DEL par exemple en Ligue Magnus, quelle est l'évolution de son pourcentage d'arrêt, sachant qu'un gardien, les performances d'un gardien sont très difficiles à évaluer, c'est un peu du vaudou comme on dit habituellement, et que souvent ça varie en montagne russe, et c'est très rare les gardiens qui sont toujours au même niveau. Mais c'est évidemment une possibilité. Dans le même style, en plus complexe, en plus réfléchi évidemment, c'est ce dont se servent les équipes NHL pour tout ce qui a trait à la draft. On a aujourd'hui suffisamment de recherches qui ont été faites pour savoir, à partir des informations dont on dispose sur un gamin de 17 ans qui joue en Finlande, par exemple, quel est son potentiel projeté en NHL ? Quel est son pourcentage de chance de devenir un joueur NHL un jour ? Quel est son pourcentage de chance de devenir un joueur élite ? Bien sûr, son pourcentage de chance de devenir un joueur de 3e ou de 4e trio. Ça, c'est des choses qui existent, c'est des choses que les équipes NHL utilisent. Les équipes NHL embauchent aujourd'hui des consultants pour les aider dans ce domaine-là. Quand on parle des modèles de projection, c'est évidemment quelque chose que les équipes peuvent utiliser même en Europe pour leur recrutement. On a aujourd'hui des équipes qui utilisent des modèles comme ça pour se faire une idée d'un joueur avant d'aller étudier la vidéo. Concrètement, puis là je vais sortir du hockey parce qu'il y a des exemples très très clairs qui sont passés dans le foot avec l'équipe de Leicester par exemple, qui utilise énormément les stats et qui au moment de se dire j'ai besoin d'un milieu défensif qui correspond à ce profil très précis, je vais voir mon statisticien, je lui dis va fouiller toutes les ligues en Europe, trouve-moi les gars qui se rapprochent le plus de exactement ce que je veux. Et là, le modèle va sortir une liste de quelques noms. Puis l'histoire que j'ai bien connue, moi, en tant que canet, c'était l'époque où Leicester cherchait un milieu défensif. Ils ont sorti une liste de 4 noms, dont N'Golo Kanté, qui jouait à Caen à cette époque-là. Leicester a signé N'Golo Kanté, et on sait ce qui s'est passé par la suite. Et Leicester continue de faire des achats pour des cacahuètes et faire des reventes à plusieurs dizaines de millions d'euros une ou plusieurs saisons derrière. Je pense que ça fait pas mal le tour quand on parle un peu de l'analytics. Il y a évidemment des possibilités quasiment infinies parce qu'on est toujours en train de faire des recherches. Quand je dis « on », très humblement, c'est pas le cas pour nous parce qu'on n'a pas les moyens, les connaissances scientifiques ou les moyens techniques pour le faire. Mais c'est ce que font des statisticiens sur la planète hockey et c'est ce que font des équipes en embauchant ces personnes-là. Ça, c'est quelque chose qui va encore davantage se développer. On y reviendra plus tard dans cette série de podcasts quand vont arriver toutes les données liées au tracking des palets et des joueurs avec les puces dans les palets et les puces sur les joueurs qui arrivent l'année prochaine en NHL, où là le nombre de données par match va devenir complètement fou à s'approcher du million parce que toutes les je sais plus quel est le chiffre là, mais je sais plus combien de fois par seconde va y avoir un petit bip et un point de données va être créé. En gros.
On aura un épisode sur le futur des données, ouais, notamment sur cet arrivant en NHL.
On réfléchira sur les choses possibles. On passe aux questions, Mathieu ?
Ouais.
Et j'en ai une pour toi. Est-ce qu'on a des stats spécifiques par poste ?
Alors, des stats spécifiques par poste, dans le sens où on les a que pour les défenseurs ou que pour les attaquants, il n'y en a qu'une qui me vient en tête, et encore on pourrait la faire pour les deux postes, mais ce serait pas forcément très très intéressant, c'est le pourcentage de zone d'entrée de zone de l'adversaire réussi ou raté face à tel ou tel défenseur. C'est la seule qui me vient à peu près en tête, donc voilà. Par contre, on utilise plus telle ou telle stat selon le poste du joueur. Par exemple, un défenseur, on va beaucoup regarder ses zones exit, alors qu'un attaquant, on va un peu plus regarder ses zones entrée. On regarde les deux pour les deux catégories de joueurs, mais on va mettre l'emphase soit sur l'un, soit sur l'autre pour les joueurs. Après, également, selon le type de joueur, si un attaquant, il est jugé offensif et qu'il est censé amener du danger, ben, on va regarder ce qu'il fait en zone offensive, ce qu'il fait en entrée de zone, etc. Si c'est un joueur qu'on a recruté pour être un travailleur, bah on va pas regarder ça, parce qu'entre guillemets, on s'en fout, c'est un peu un bonus. Mais si on l'a recruté pour jouer contre les meilleurs trios adverses, justement, on en parlait tout à l'heure, et être bon défensivement, bah on va regarder ce qui se passe en zone défensive avec lui, est-ce qu'il concède beaucoup de chances de marquer ou pas. En gros, on va un peu regarder si chaque joueur remplit bien le rôle qu'on lui a donné avant la rencontre.
Ouais. un point important à préciser là, comme tu dis, en gros on mesure quasiment toutes les stats pour tout le monde et après on fait le tri, on regarde pas les mêmes choses. Et le point important, c'est que il faut évidemment comparer des pommes avec des pommes. C'est-à-dire que quand on regarde, quand on veut savoir où se situe un joueur sur les sorties de zone, mettons, par rapport au reste de la ligue, si on veut savoir où se situe un défenseur, on va le comparer aux autres défenseurs de la ligue. Parce que, comme tu dis, un défenseur a plus d'occasions de faire une sortie de zone, logiquement. Et par contre, un défenseur fera moins d'entrées de zone qu'un attaquant. Donc si on compare un défenseur à l'ensemble de la ligue sur les entrées de zone, il va se retrouver relativement bas parce qu'il a rarement l'occasion d'en faire. Par contre, ce défenseur-là va peut-être être le meilleur parmi les défenseurs pour les entrées de zone dans la ligue. Une autre question qui venait de Damien. Pourquoi un dégagement interdit dans un moment de pression ne peut-il pas être considéré comme un bon jeu ?
Bah, il peut l'être. Je pense qu'il peut l'être. Mais sur l'ensemble d'une saison, voire même sur l'ensemble d'un match, combien de sorties de zone va-t-on faire vraiment sous pression au point de ne pas pouvoir faire autre chose ? Ça va représenter quoi ? 1-2% de tes sorties de zone ? Donc au final, si t'es un joueur qui est capable de sortir la rondelle proprement, bah tu vas peut-être avoir 2-3 fois dans la saison où bah, t'as été obligé de dégager parce que t'avais 3 mecs qui t'arrivaient dessus et que t'étais dos au jeu et que tu voyais pas de solution et puis que ça faisait une minute que t'étais dans ta zone défensive. Et là, du coup, tu vas dégager. Mais globalement, sur l'ensemble de la saison, tous les joueurs reçoivent à peu près la même pression en moyenne sur chacune de leurs sorties de zone. Il y en a où ils vont recevoir plus, d'autres moins, mais sur une saison, je pense que ça s'équilibre. Et donc, cette sortie de zone où on aurait pu dire bien, il a fait un bon dégagement interdit parce que là, ça chauffait vraiment, bah, elle va être noyée dans tout le reste. Et un joueur qui va avoir 70% de dégagement interdit sur ses sorties de zone, bah, ça va pas être 70% des fois où il aurait pas pu faire mieux.
Non, mais théoriquement, oui, ça peut être un bon jeu si vraiment tout le monde a besoin de souffler, qu'il n'y avait vraiment aucune autre solution. Mais d'ailleurs, j'en profite pour dire que une sortie de zone en dump chez nous est considérée réussie si le palais atteint au moins la zone offensive adverse. Même si on ne récupère pas le contrôle du palais, donc c'est pas considéré comme une sortie en possession, en contrôle. Mais au moins, si le palier a atteint la zone bleue adverse, la défense aura eu le temps de changer et de souffler un petit peu. Faut pas que ce soit un dégagement interdit. Par contre, il faut trouver le juste milieu.
Évidemment. Et c'est pour ça qu'il y en a très peu des sorties de zone en dump réussies. On en compte très peu.
Oui, c'est comme l'image qui me venait à l'esprit en pensant à cette question. C'était une équipe de rugby qui tape au pied. Il faut réussir à trouver une touche. Si elle n'était pas en ses 22 mètres, trouver une touche, alors que le ballon a rebondi avant pour pas que la touche soit directe. Et il faut trouver la touche pour éviter la relance adverse et mettre la pression pour pas qu'il fasse une touche rapide. Enfin,
c'est de moins en moins vrai, ça d'ailleurs, on va pas rentrer dans le
ouais, bon.
Mais l'Irlande, l'Angleterre, etc., ont construit leur jeu sur essayer de mettre de laisser le ballon sur le terrain, mais entre les pointillés des 5 mètres et la touche, enfin, c'est un autre débat.
Ouais, mais. On va pas rentrer là-dedans, mais on parlait de stats dans la toute première émission, les stats de rugby. Moi, quand j'avais lu ça, j'étais un petit peu tombé de ma chaise, j'aurais dit l'inverse, mais les stats au rugby ont montré que le jeu le plus efficace, c'était les équipes qui jouaient beaucoup, beaucoup au pied.
Ah oui, oui. Ah oui, oui, tout à fait, c'est ce qui permettait de gagner le plus de mètres et de faire parcourir des mètres au ballon. Les Anglais, ils ont un terme pour ça, je l'ai perdu. Mais c'est Fabien Galtier qui écrivait un article là-dessus sur l'équipe avant le Angleterre-Irlande de la première journée du Six Nations cette année et qui parlait de la manière dont Eddie Jones, le sélectionneur de l'Angleterre, a bâti toute son équipe et il avait assisté à plusieurs entraînements d'Eddie Jones et il insistait sur le jeu au pied de pression, c'est-à-dire tant qu'on avance, on avance avec la balle en main, mais si pendant un ou deux temps de jeu on est arrêté, et bah bim, on envoie devant et en essayant de garder la balle dans le terrain. Mais tout de même le plus sur le côté possible. Il disait ceux qui jouaient au pied, c'était bien le numéro 9 et le numéro 10, ils passaient parfois 15 minutes de l'entraînement à essayer de viser une zone du terrain dématérialisée par quelques plots et une zone toute petite, parce que c'était ça qui faisait gagner l'équipe et qui faisait que l'équipe était toujours sur l'avancée.
Écoute Mathieu, je pense que c'est tout pour cette cinquième émission. Donc on se retrouve très rapidement pour la sixième qui sera consacrée je pense qu'on a la pression là-dessus sur comment une équipe utilise les stats, là, le concret du concret du concret. Mathieu, merci, et puis on se retrouve très rapidement donc pour la suite.